Alors, bonjour à tous.
Bonjour.
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 Bonne année et bonne année.
Bonne année.
Donc là, on se retrouve pour ce nouveau podcast parce qu'il y a quasiment un an, on avait donné nos premières impressions à chaud sur la Switch qui venait de sortir. Et là, on va bientôt arriver à la première anniversaire de la Switch, donc il est temps de faire un petit bilan.
Eh ben oui, est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Est-ce qu'on a dit de la merde?
Bah, parce que nous, on avait plutôt aimé.
On était optimiste. Vachement optimiste. Donc on va voir, là, 10 mois après, si on est toujours aussi optimiste. Et surtout, est-ce que le monde entier a eu cet optimisme? Est-ce que la Switch est un succès ou pas? Est-ce que, au bout de 10 mois, on peut parler de succès ou pas? Ou est-ce qu'il faut attendre plus longtemps?
On peut déjà avoir un premier.
Quel genre de chiffre, par exemple?
Le Famitsu, il a dit que, par exemple, aujourd'hui, la Switch, elle s'est déjà plus vendue que la Wii U au total.
Donc c'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
La Wii U, c'était sur combien d'années?
Sur 5 ans.
Ah oui, quand même.
Et tout à l'heure, j'ai lu que le record a été battu aux États-Unis sur le nombre de ventes de consoles en 10 mois. Donc là, la Switch a atteint presque 5 millions.
Ça a dépassé la Wii.
Ah oui. Donc là, on peut déjà parler d'un succès commercial pour Nintendo.
Tout à fait.
Tout à fait.
Mais il n'y a pas que les ventes qui comptent.
C'est vrai qu'il y a plein d'exemples de choses qui sont bien vendues ou qui ont bien marché, mais qui n'ont pas forcément la qualité qui va avec leur succès.
Ah, mais moi, je sais pas, je ne joue qu'aux ventes. Hein. Moi, quand quelque chose se vend bien, c'est ça qui m'amuse.
D'accord. Bah, la console en elle-même, parce que c'est vrai que nos premières impressions avaient été très bonnes sur le niveau hardware. Maintenant, ça fait un an qu'on l'a eu en main. Est-ce qu'on est toujours aussi enthousiaste sur la qualité matérielle de cette console?
Ouais, j'apprécie beaucoup y jouer, en tout cas dans les transports. C'est quelque chose, voilà, on se demandait est-ce que ça allait perdurer sur la longueur. Est-ce que voilà, il y avait l'aspect fun d'y jouer dans les transports au début, mais est-ce qu'on allait y jouer voilà sur la durée de cette façon? Eh bien moi, oui, j'y joue encore régulièrement dans les transports, donc je pense que c'est quelque chose qui s'est bien intégré dans les habitudes.
Moi, pour le jeu justement dans les transports, j'ai été réticent pendant assez longtemps en fait, parce que c'était bon, parce que ça, une Switch, ça coûte quand même un petit peu d'argent, et donc j'avais un petit peu peur de me promener avec ça dans ma poche. Mais finalement, je m'y suis mis parce que j'ai récemment commencé à jouer à un jeu qui m'obsède, donc j'y joue tout le temps. Et donc je découvre la fonctionnalité de la portabilité, et c'est vrai que je suis assez convaincu quoi.
Alors, moi, pour ma part, j'y joue pas souvent dans le métro parce que c'est une grosse console, donc assez compliqué à transporter. Par contre, j'ai beaucoup voyagé en avion ou en train en 2017, et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un vrai plaisir d'avoir la console dans le train ou l'avion.
Dans l'avion, c'est bien amusé.
Dans l'avion, c'est bien amusé. Bien amusé.
Ou même pendant les pauses déj avec mes collègues, souvent je la sors, on est deux à l'avoir, donc ça fait 4 manettes, et tout de suite, en mode portable. On la pose sur la table et on joue à 4. Quoi. C'est super agréable. C'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais faire avec d'autres consoles.
Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. Au niveau des manettes, c'était un des arguments de vente. Enfin, pas de vente, mais une des nouveautés de la console. Est-ce que vous êtes toujours aussi convaincu par ces fameux Joy-Con?
Ben, mis à part One Two Switch, où tu as vraiment tout le potentiel des Joy-Con qui est exploité, si tu regardes là, 10 mois après, les manettes ne sont pas spécialement exploitées par les jeux qui sont sortis.
Ouais, on sent au niveau des vibrations que effectivement c'est pas pareil que sur les autres consoles ou etc. Ah, on sent que en fonction de ce qu'on fait dans le jeu, notamment Mario Kart par exemple, quand on récupère une pièce, la vibration, t'as même une sorte de petit bruit.
C'est une vibration de pièce.
Voilà, c'est une vibration de pièce. Je sais pas comment l'expliquer, mais même au niveau du bruit, t'as vraiment l'impression. Tu sens que ce que tu viens de sentir, c'est pas la même chose que quand tu te prends une carapace, quand tu roules sur l'herbe ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment assez léger dans les jeux, mais c'est là. Mais effectivement, comme tu as dit, il n'y a que One Two Switch qui met en avant les spécificités des manettes.
Ouais. Voilà, moi c'est vrai, moi j'avais été impressionné, je l'avais dit d'ailleurs, par l'ingénierie, le fait de mettre autant de fonctionnalités dans aussi peu d'espace, et je suis toujours aussi impressionné là-dessus. Mais moi, quand j'ai acheté la console, j'ai pris une manette pro en même temps, et du coup pour moi les Joy-Con c'est un peu devenu c'est pas ma manette principale quoi. Après bon, je trouve toujours ça assez impressionnant, mais j'ai trouvé une meilleure solution dans la manette pro que par contre je trouve exceptionnelle.
Moi je suis dans le même cas que toi, je joue quasiment qu'à la manette pro chez moi parce que j'adore cette manette. Par contre c'est vrai que les Joy-Con, moi, je trouve ça super quand on on joue à plusieurs, quand on se déplace, ça fait vraiment des vraies manettes, et tout à fait utilisables, et pour ça...
Bah, le contrat est rempli, quoi. Et puis même Slash, qui est pas là aujourd'hui, pendant super longtemps, il a joué avec les Joy-Con sur le Joy-Con Grip, et puis bah, ça lui suffisait largement, donc je pense que ce que les Joy-Con sont censés fournir, bah, le contrat est rempli, quoi. Après, j'ai juste trouvé une meilleure solution dans la manette pro, qui du coup justifie très bien son existence aussi.
Son prix, parce qu'on avait beaucoup critiqué son prix.
Bah, ouais, bah moi-même, je le critiquais déjà pas à l'époque.
Tant qu'ils comprendront pas la technologie qui est à l'intérieur de la manette et que ce que tu payes, ça correspond à ce que tu as, et qui continueront de comparer aux autres manettes de la concurrence qui ne remplissent pas les mêmes fonctions, on ne pourra rien faire.
Moi j'ai payé ma manette 70 balles, pour l'instant j'ai dépensé 0 en pile, par exemple. sur Xbox One, par exemple, il faut racheter des piles régulièrement.
Ou alors
il faut acheter une batterie. Mais du coup, ça se rajoute au prix de la manette de base.
Oui.
Et ta manette pro que t'as achetée en mars, depuis tu l'as rechargée 3 fois, non?
Ouais, à peu près. Non, j'ai beaucoup joué à Xenoblade.
Par contre, effectivement, dans les points négatifs de la console, on peut noter que bah, nous qui avons souvent, entre guillemets, joué en multijoueur, mais en console, en réseau local, les déconnexions, ça arrive quand même assez souvent.
Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a
en termes de réseau...
Il y a un problème sur le Wi-Fi qui n'est pas hyper stable.
Parce que ça peut arriver même s'il y a beaucoup d'interférences ou pas beaucoup d'interférences. Et oui. C'est là que c'est le plus frustrant, on va dire.
Ouais, quand tu veux faire du Mario Kart en local avec juste deux consoles, parfois même en étant à 30 cm l'un de l'autre...
Ça marche pas.
Alors, ça s'est amélioré depuis. Alors effectivement, ça c'était vrai, c'était une horreur. C'était impossible de finir une course au début quand Mario Kart est sorti. Depuis, avec les mises à jour, c'est devenu un peu mieux. Notamment dans les DS in Paris, ils arrivent maintenant à jouer et à finir les courses.
Ouais.
Même à 8. Mais bon, c'est pas encore la perfection.
Ça c'est dommage.
Ok, donc niveau hardware, bon, il y a eu quelques défauts de jeunesse, on va dire. Mais globalement, on est plutôt content de cette console.
Par contre, juste vite fait, je rajoute, faut dire quand même le fait qu'il n'y ait pas de connexion vocale sur la manette, c'est un peu chiant.
Ouais. Pour moi, ils auraient juste dû rajouter un port jack dans la manette pro.
Ouais.
Et c'était...
Limite que dans la manette pro, c'est pas grave. Voilà. Au moins, tu sais que voilà, si tu veux jouer en mode sérieux, bah, t'as la manette pro et t'as ton port dessus. Peut-être c'est pas ça. Sur les Joy-Con de base,
parce que
je vois
pas
comment
ils l'auraient
fait.
Avec un casque, tu vois. Ouais. Comme sur les autres consoles, ça aurait été vraiment sympa.
Donc,
après, c'est bien le matériel, mais ce qui compte, c'est quand même les jeux. Ouais, on a toujours été...
Sur une console, ça peut être important.
C'est important.
Non, moi, je joue qu'aux ventes.
Non, aux ventes et à la puissance.
La console.
Je l'ai acheté comme
ça. C'est pas Crunchyroll.
Du coup, c'était un peu notre inquiétude l'année dernière. Quand la console est sortie, on avait à peu près que Zelda à se mettre sous la dent. Pourtant, il y en a pas mal des jeux qui sont sortis en 2017.
On n'était pas vraiment inquiet parce que, ok, il n'y avait que Zelda.
C'était l'interrogation.
Il y avait,
pas forcément inquiet, mais c'était l'interrogation.
Il n'y avait que Zelda, de gros jeux à la sortie de la console. Mm. Mais on avait quand même.
On savait qu'il y aurait Splatoon.
Voilà, Xenoblade a été rapidement annoncé, Mario aussi. On savait que l'année allait être vraiment riche.
Non, on savait qu'il y avait vraiment une grosse sortie par mois jusqu'à la fin de l'année.
Oui, et il n'y a pas eu beaucoup de reports, donc on a vraiment eu cette sortie.
Il y a même eu des surprises de jeux qui n'étaient
pas
attendues.
Quand ils l'ont annoncé au début en 2017, je me suis dit,
on était sûr
pour faire plaisir.
On était sûr que ça serait repoussé.
Il y avait même Mario et les Lapins Crétins qui a été annoncé à l'E3 pour sortir 3 mois après, qui s'est révélé être un jeu tout à fait plaisant.
Et bien justement, je propose qu'on détaille un peu tous les gros jeux qui sont sortis, qui nous ont plu.
Tous les jeux ou tous les gros jeux? Vaut mieux qu'on dise tous les gros jeux, effectivement. Comme
ouais,
ça,
parce
si
que.
On
y a beaucoup... Ouais, parce qu'on va pas détailler toutes les sorties.
Il y en aurait trop.
Je crois que si tu prends l'eShop et tout, il doit y avoir déjà plus de 200 jeux sur la console.
Ouais,
hein.
Donc,
du coup, ouais, c'est vrai que. Déjà, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des inquiétudes à propos de la librairie de la Switch à sa sortie, parce que dans les quelques jeux de sortie qui avaient été annoncés, le seul vraiment gros, c'était Zelda. Après, je pense que personne, même les gros fans comme moi, n'aurait pu prévoir que Zelda aurait un tel succès critique.
Exactement.
Et un tel succès commercial. Enfin, c'était, certes, il n'y avait que ça en gros jeu, mais alors quel gros jeu.
Mais justement, parle-nous-en un peu de ce Zelda.
Bah, toi qui a... moi, je pense même pas être celui qui y a plus joué ici, hein, mais c'était un... C'est un jeu qui a voulu, comme c'était annoncé d'ailleurs hein, dans la note d'intention du développeur, s'inspirer d'un certain nombre d'aspects des RPG en open world plutôt occidentaux.
Oui.
Mais bien sûr, comme c'est Nintendo et qu'ils aiment bien toujours mettre les choses à leur sauce dans leur jeu, ils ont, en plus du moteur physique qui est déjà plutôt bon, et puis c'était une première pour un Zelda d'avoir un tel moteur physique, ils ont rajouté ce que les gens appellent un moteur chimique, à savoir tout un nombre de règles qui régissent comment les choses de l'environnement interagissent, pour faire que on n'a plus l'impression de faire la bonne action à cet endroit, comme si c'était lié à un contexte,
prévu, ouais.
Mais on fait cette action-là à n'importe quel endroit. Alors, je vais donner un exemple, hein. Si on met le feu à de l'herbe, l'herbe s'enflamme vraiment, et après, au-dessus de ces flammes, il y a un courant ascendant, parce que partout dans le jeu, quand il y a des flammes, il y a un courant ascendant. Et on peut se servir du courant ascendant avec le paravoile
pour
s'envoler. Et ça, on peut le faire n'importe où il y a de l'herbe. Là où le jeu est vraiment très fort sur les attentes du joueur, c'est que on en arrive à un point, quand on a beaucoup joué au jeu, où il y a des choses qu'on tente, où on se dit « je vais tenter ça parce que dans la vraie vie, ça marcherait, et ça marche ». Moi je me souviens, il y a un donjon où on doit fermer des circuits électriques avec des blocs qu'on doit trouver dans les salles, etc. Et en gros c'est les énigmes du donjon, mais en fait genre si on n'y arrive pas ou qu'on a la flemme, on peut prendre toutes ces armes. Exactement. Et les aligner, et comme elles sont en métal, ça ferme le circuit et ça marche, genre ça marche vraiment. Je crois qu'il n'y a pas une seule chose dans le jeu qu'il n'y a qu'une seule manière de faire. Alors tout peut être, on est même encouragé quoi, à, je dirais, tricher avec des guillemets, mais on est encouragé à être créatif, ce qui est quand même assez génial dans un jeu d'énigmes. Ce jeu, une fois que tout le monde a passé à peu près une semaine avec le jeu, on a tous commencé à en discuter et on était tous à des endroits radicalement différents,
oui,
avec une progression différente, et chaque joueur a vraiment son propre scénario. Moi j'ai fait ça, je suis allé là, et tu savais qu'on pouvait faire ce truc. Moi ça m'a rappelé des choses d'avant internet en fait, quand j'étais en école primaire et qu'on faisait tu sais que tu peux faire ça et blablabla, parce que les informations circulaient beaucoup plus lentement. Là c'est pas que les informations circulent plus lentement, c'est qu'il y en a juste beaucoup beaucoup plus.
Mais parfois t'as des gens qui ont joué 120 heures, t'en as d'autres qui ont joué 40 heures, et le mec qui a joué que 40 heures de jeu, il a déjà fait des trucs que le mec qui a joué 120 heures n'a pas encore fait. Du coup ça c'était un peu chiant au début entre nous, parce qu'on pouvait pas trop parler du jeu, parce qu'on a fait des aventures totalement différentes.
Pour éviter de se spoiler.
Voilà.
Après, c'est un jeu qui est quand même pas parfait, il a des défauts. Hein. Il y a des gens qui ont eu d'énormes problèmes, par exemple, avec le système de la fragilité des armes. Moi, je trouve que c'est génial, mais bon, il y a des gens qui ont eu des vrais problèmes avec ça.
C'est un parti pris.
Moi par exemple j'aime pas, j'étais content qu'il l'ait enlevé dans Fire Emblem, au final c'était pour le mettre dans cette
mais ouais, le non, truc c'est que dans Fire Emblem ça te forçait juste à, en gros ça te faisait dépenser des choses quoi. Là moi ce que je trouve intéressant dans ce Zelda, c'est que quand tu veux pas avoir des armes qui sont aussi friables que ce que t'avais au début, les bouts de bois que t'as volé sur des gobelins tout pourris, ça t'encourage à aller te battre contre des choses plus grosses et plus fortes, parce que les armes qui te laissent, elles tiennent plus longtemps, justement.
Non, mais ce que j'aime pas, moi, justement, avec ce système-là, c'est que la récompense, elle est éphémère, tu vois. Et moi, personnellement, ça me gêne.
Alors, il faut passer le cap psychologique, parce que moi, j'ai un collègue comme ça qui avait ce problème-là, de pas oser utiliser tes bonnes armes, parce que tu dis, sinon elles vont se casser, je les aurai plus. En fait, faut pas se dire ça. Faut dire, j'ai des bonnes armes, je vais les utiliser, je vais en profiter et j'en trouverai d'autres plus tard.
Moi, je joue à RPG, des élixirs, j'en ai 99 à la fin du jeu.
Ouais, pareil. Moi,
c'est pareil. C'est ça.
Souvent, on a ce genre de réflexe, mais c'est vrai que c'est un jeu qui ne fonctionne pas bien si tu fais ça. Il y a des choses comme ça, et puis surtout, je pense que le point faible communément acquis du jeu, c'est l'histoire. Il y a un parti pris narratif que je trouve pas inintéressant, de faire qu'en gros on arrive dans le troisième acte de l'histoire où c'est déjà la merde et il faut venir sauver le monde.
Et tous les éléments narratifs sont racontés sous forme de souvenirs de ce qui s'est passé avant.
Ouais, et enfin, ça fait quand même que on a l'impression, sur l'histoire qui se déroule dans le jeu, donc pas ce qui est raconté avant, on n'a pas l'impression d'avoir une grande progression scénaristique. Et c'est
après c'est moi je pense que c'est la méthode la plus simple pour te permettre d'avoir une grande liberté comme on a dans ce Zelda. Et je pense qu'ils ont tellement bossé à mort sur le moteur de jeu, sur le concept de moteur chimique, de liberté et tout ça, qu'ils n'ont pas, pris le temps de bosser à fond sur une aventure plus scénarisée. Je pense que ça sera pour le prochain.
Ça me fait penser à Xenoblade 1 et Xenoblade X, qui sont comme ça aussi. Xenoblade 1, l'histoire, elle est géniale, absolument géniale. Mais bon, elle est quand même plus dirigée, plus linéaire. Il y a des environnements très grands, mais on suit quand même un flow et on n'a pas le choix de dans quel ordre on fait les choses. Alors que Xenoblade X, l'histoire est quand même moins intéressante que celle du 1. Mais on a une liberté d'exploration. Il fallait Zelda Breath of the Wild pour trouver mieux. Hein.
C'est clair. Après, je pense à Link's Between Worlds, où c'est pareil, tu pouvais quand même faire les choses dans l'ordre que tu voulais, mais il y avait quand même un aspect scénaristique plus présent. Donc c'est faisable, peut-être, on peut espérer ce genre de choses pour la
prochaine Zelda. Ça peut se trouver, c'est vrai.
Bon, il n'y a pas que Zelda non plus.
Il n'y a pas que Zelda dans la vie de la Switch. Parce qu'après
avoir fait 30 minutes sur Zelda.
Alors, parmi les jeux du lancement, on peut citer One to Switch. On va passer vite fait.
Ça, c'est le genre de Wii Sport de la console. C'est un truc qu'ils auraient dû inclure avec la console pour que les gens découvrent toutes les fonctionnalités de la manette.
Ça fait un peu de démo technique.
Il y a plein de gens qui ont acheté la Switch et qui savent même pas en fait de quoi les Joy-Con sont capables. Ça, ils n'ont pas joué à One.
Sûr et certain, bien sûr.
Après, ils n'ont pas joué au jeu où on compte les boules. Quoi.
Voilà, exactement, le jeu des billes.
C'est le seul jeu que je retiens là.
C'est ouf.
Je me rappelle de quel jeu, je me rappelle que de celui-là.
Et le problème, c'est que ils avaient dit et que One to Switch, ils l'ont pas mis dans la console parce que sinon, le prix, il aurait dépassé. La console, elle aurait été trop chère et donc eux, ils voulaient garder un prix bas.
Pour laisser aux gens le choix de leur jeu.
Mais après, tu vois, si on est honnête deux secondes avec.
oui, merci.
Dans One to Switch, je sais même plus combien il y a de jeux.
Une vingtaine.
Bon. 28.
C'est ça. Dans One to Switch, il y a 28 jeux. En vrai, je pense qu'en prenant les 5 meilleurs, on a une super démo technique, et ça, ils auraient pu le mettre même en préinstallé dans la console. Quoi.
Complètement. Après, One to Switch, c'est quand même un jeu sympa à voir en soirée pour faire découvrir la console à ses amis. Quoi.
Ouais, après,
ça se résume à ça.
Ouais, mais attention. Ça a vite disparu, je trouve.
Ah oui, non, mais on l'oublie très vite. Hein.
Attention, parce que là, on parle de ce que nous, on aurait aimé. Mais je crois que si on regarde les ventes de One to Switch, c'est pas si dégueulasse que ça. Donc ils ont quand même, d'un côté, eu raison.
Ouais. Mais après, si on regarde les jeux qui sont sortis par la suite, tu peux voir que la vie était
éclipsée.
Mis de côté.
Par c'est exemple, on a eu ensuite, vers le milieu de l'année, on a eu trois gros jeux multijoueurs. Donc Mario Kart 8 Deluxe, qui est Mario Kart 8 réédité avec tous les DLC, plus un mode battle,
un mode battle.
Je crois qu'on a plus joué au mode battle qu'à autre chose sur la Switch.
Mais en même temps, on a tellement torché sur Wii, le seul véritable intérêt de cette nouvelle version, c'est son mode bataille pour ceux qui l'ont déjà cramé sur Wii.
Oui, mais justement, il n'y a pas grand monde qui l'avait déjà cramé.
Ceux qui avaient la Wii U, là.
Nous,
on l'a tous eu. Et si tu rajoutes 9 personnes de plus, il y a tout le monde. Donc, les autres, je pense aux autres, il y a quand même beaucoup de gens qui sont revenus à Nintendo grâce à la Switch. Pour eux, Mario Kart 8 Deluxe, c'est quelque chose. Un très très bon Mario Kart. Quoi.
Ça reste un Mario Kart, tu t'amuses et...
Mais oui, il est génial.
Et, et où je suis toujours devant toi.
J'ai des screenshots qui disent l'inverse.
Sur des atmosphères, poste de screenshots, attention, ça va venir.
Ensuite, on a eu une petite surprise, une nouvelle licence, qui est ARMS.
Attends, parce que le même mois que Mario Kart 8 Deluxe, il y a eu Puyo Puyo Tetris.
Donc, pardon.
Ok, c'est pas exclusif à la Switch, il est sorti sur toutes les autres consoles, mais il fallait que je le place. Parce que pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, quoi ? Mais mélanger Puyo Puyo et Tetris, ils sont fous ! Tetris, c'est trop bien tout seul, et puis Puyo Puyo, c'est bien, mais je vois pas comment ils peuvent mélanger les deux. Et puis ils ont fait le mode swap, et puis là, je veux jouer qu'à ça. C'est les modes swap.
Excellent.
Il fallait que je le quiz, très très bon jeu.
Avant, on avait Tetris DS.
Voilà.
Maintenant, on a Puyo Puyo.
Il est excellent à 4, hyper fun.
quand les gens veulent bien jouer avec toi.
C'est ça.
Voilà.
Donc je parlais de ARMS parce que c'est quand même une nouvelle licence.
Bah, je te laisse parler. Moi,
alors je n'ai pas beaucoup joué au jeu.
J'ai c'est pas un jeu de... du tout.
Le mien est toujours sur Blister.
C'est un jeu de combat. Alors moi, j'y ai pas beaucoup joué parce qu'il y a eu bizarrement beaucoup de jeux à ce moment-là et j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Je pourrais pas en parler plus que ça. Non, mais
moi, j'ai assez joué pour pouvoir donner un avis.
Ah vas-y, c'est jamais c'est le seul ici.
Donne un avis.
Et ARMS, en fait, c'est un jeu qui se base justement sur la reconnaissance des mouvements des Joy-Con, où en gros, on tient un Joy-Con dans chaque main et on mime des gestes de boxe. Et c'est super bien retranscrit à l'écran. Et ça en fait un jeu totalement compétitif et qui a un suivi comme Splatoon. Ça en fait vraiment une grosse nouvelle licence pour Nintendo. Et le jeu s'est super bien vendu. Il y a une petite scène qui s'est installée. Là, si vous voulez jouer au jeu, par exemple, en France, il y a des tournois qui sont organisés en ligne, il y a des Discords, etc. Ça a vraiment été suivi. Et c'est un petit peu le Splatoon des jeux de combat.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
C'est vrai qu'en plus, on voit que là, même là, je crois, actuellement, il y a encore des personnages qui sortent. Ouais. Et gratuit en plus à chaque fois.
C'est le dernier. Par contre, il continuera toujours d'être suivi. Il y a des espèces de Splatfest qui sont organisées. C'est le mode Party Crash. Et puis, il y aura toujours des petites mises à jour pour balancer le jeu s'il y a des abus qui sont trouvés. Donc, ouais, c'est vraiment une bonne surprise si on a le temps, en fait,
balancer équilibré dedans. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà, ouais, équilibrer le jeu.
Oui. Il fait une belle transition pour le jeu multijoueur pour moi de l'année 2017, c'est Splatoon 2, un jeu qu'on attendait vraiment beaucoup. Ouais. Bon, on est... malheureusement, il y a beaucoup de gens ici présents qui l'ouvraient beaucoup au début. Oui, on va jouer beaucoup à Splatoon et puis ils ne sont jamais là dans les soirées. Donc on n'est plus que deux, Slash et moi, à jouer régulièrement.
Moi, parfois, je viens.
Oui, ouais, c'est vrai. Non, mais tout le monde vient de temps en temps parce que c'est quand même... vachement sympa de se faire un petit Splatoon de temps en temps.
Le Salmon Run, ils ont rajouté le mode Salmon Run. Lui tout seul, ce mode-là, il
c'est
énorme.
Trop bien. C'est
vraiment magnifique, cool, ouais. Que ça soit en local ou en ligne. Voilà, faut dire la vérité, Splatoon, c'est un jeu dur. Tu joues en ligne contre d'autres personnes, déjà, c'est dur de t'habituer au gameplay, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et donc, si tu l'as pas, ça va te prendre du temps à prendre en main.
Il y a des gens qui ont joué plus de 2 ans et qui savent toujours pas viser, c'est pour ça.
et donc, voilà, donc, tu peux quand même t'amuser, mais c'est vrai que comme c'est de la compétition, à part le mode 1 joueur, ok, mais ça reste du mode 1 joueur. Et le Salmon Run, ça permet justement aux gens qui sont peut-être pas assez forts pour faire du compétitif en ligne, ouais, de jouer quand même en ligne avec d'autres personnes, mais en coopératif.
Et en ayant quand même une difficulté.
Voilà.
Parce que selon le niveau dans lequel
selon
ça
le
se
niveau
passe...
commenté. Et puis voilà. Et puis
et
en plus, voilà. C'est.
Il y a
la répartition des armes, il y a le degré de vie. Et ce mode Salmon Run, à lui tout seul, mais il est énorme. Moi, ça a été un coup de cœur de fou, quoi.
Donc vraiment, belle surprise. Après, c'est pas un Splatoon qui révolutionne Splatoon, parce que de toute façon, c'est que le deuxième. Hein.
C'était pas la peine.
C'était pas la peine.
Le principe de jeu est vraiment excellent. Et ils ont juste ajouté les nouveautés qu'il fallait pour pouvoir continuer à jouer et ne pas se lasser.
C'est un kiff constant.
Alors, ensuite, donc Rash, tu vas pouvoir nous parler de la surprise pour toi de l'année, qui était Mario...
Mario plus Lapin Crétin, Kingdom Battle.
Non, surprise, alors oui, surprise, parce qu'à l'E3, quand on a vu les premières images, notamment celles qui ont fuité avant la vraie présentation à l'E3, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec Mario et une sorte de gun intergalactique et des lapins crétins.
Et justement, donc là, tu fais bien de le dire, vraiment, tout ce qu'il ne faut pas faire dans les spoils et dans les leaks, c'est ce que les images, elles ont leaké, et moi-même, tout le monde a dit, putain, mais c'est quoi, moi, j'en veux pas de cette merde, un jeu qui mélange lapin crétin.
Sur une image,
une ou deux images, voilà. Et donc, c'est vraiment toute cette négativité des leaks qui détruit le travail.
Parce que forcément, on critique des images qui n'étaient pas faites pour être présentées comme ça. Ouais. Et alors que, voilà, le 3, Ubisoft a bien fait les choses et a présenté la chose... façon vraiment cool.
Ne serait-ce qu'avec un trailer qui explique le jeu.
Voilà, déjà. Voilà.
Exactement. Et le trailer, il nous a au contraire tous emballés. Quoi. Qu'on l'a vu, on s'est dit, mais ça a l'air super sympa.
Et d'ailleurs, on peut saluer un truc quand même sur chez Ubisoft, justement. Comme il y avait toutes ces histoires de leaks, etc., il fallait réagir. Au moment de l'annonce, de la vraie annonce du jeu, il fallait y aller à fond. Et ils y sont allés à fond. Ils ont mis Yves Guillemot et Shigeru Miyamoto sur scène avec les guns en même temps. Exactement. Le gros plan sur Davide Soliani en train de pleurer parce que...
Ça m'a fait un truc au cœur. Hein. Quand j'ai vu le gars, les larmes aux yeux...
C'était, ah, de toute façon, la conférence d'Ubisoft cette année à l'E3, c'était pas mal, quoi.
Ouais, bah, ils ont arrêté de partir sur du « on a des grosses balls, on dit des gros mots, on dit fuck à toutes les phrases », et donc c'était un peu plus agréable.
De toute façon, ça marcherait pas trop.
Il y avait plus l'actrice, là.
Donc on avait tous hâte d'y jouer, de mettre les mains dessus, donc, quand il est sorti en août. Et on a été, finalement, nos impressions, en tout cas, suite à la conférence Ubisoft, ont été confirmées, vu que le jeu est très agréable à prendre en main, très joli. Les combats sont très intéressants. Et en plus, on a beaucoup d'options en termes de stratégie de jeu. C'est en fonction des actes, des boss, etc. Vraiment, il faudra mettre en place des stratégies différentes, créer des équipes différentes pour en venir à bout. Et il y a vraiment un aspect stratégique hyper intéressant dans ce jeu.
Et
voilà.
Du challenge.
Et du challenge, parce qu'il n'est vraiment pas facile. Donc voilà, en
le
plus.
Jeu est vraiment cool. Moi, par exemple, je déteste les lapins crétins. Tout ce qui se rapproche près ou de long lapin crétin, je déteste. Quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, ouais, ok, lui, il va sortir et je vais pas l'acheter. Mais j'ai eu l'occasion de le tester peu après. Et une fois en fait que tu découvres le degré de stratégie que tu peux vraiment développer dans le jeu, ça, tu te dis, en fait, c'est vraiment pas mal. Et du coup, après l'avoir testé, le jeu, j'étais obligé de l'acheter. Alors que je déteste les lapins crétins.
Il y a des passages qui sont drôles aussi, d'ailleurs.
Ouais, aussi, ouais.
Il y a des passages même assez mythiques.
Et la musique. Et la musique.
Grande Kirkhope.
Grande Kirkhope. Ouais. Allez voir sur Google.
Alors moi, le problème que j'ai avec ce jeu, moi j'ai beaucoup aimé le jeu aussi, le problème c'est que, comme souvent dans les jeux Ubisoft, ouais, le jeu est très bien, il a bien été développé, par contre,
il n'est pas fini.
Il
y a du bug, il y a des...
Alors les bugs c'est pas gênant parce que ça peut se patcher, ça bon, qu'il soit bugué, d'accord, mais
c'est pas le plus grave.
C'est pas le plus grave, mais par contre qu'on arrive à la fin du jeu et ça se finit avec une vieille cinématique...
Ouais, super.
Tu veux la fin de ton jeu?
Voilà, oui. Le jeu en lui-même, tu commences avec une super cinématique qui a introduit le truc et tout, qui est vraiment génial, et la fin, elle est zéro.
Mais voilà. Même pendant, hein, il se passe rien.
Ah non, il se passe. Non, mais ça après, bon, c'est pas très grave.
Tu avances dans l'histoire.
C'est comme un Mario.
C'est comme un Mario.
T'as une introduction, une fin. Là, il y a une introduction, il n'y a pas de fin.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de fin.
Ubisoft.
Donc ensuite,
là, on arrive à la fin de l'année, là, on arrive vers le mois d'octobre.
Ouais,
et là, bon,
c'était le mois où on attendait à certains jeux très attendus.
C'est les fêtes de fin d'année qui arrivent, et donc il y a les bombes, il y a les grosses bombes qui arrivent.
Et pour nous faire patienter, Nintendo a sorti
une semaine avant,
Fire Emblem Warriors.
Un excellent jeu.
Voilà, et c'est un Musou. Donc un jeu de
bourrin, un beat'em all
ultra bourrin où on attaque des centaines d'ennemis en même temps.
On fait des centaines de kills d'un coup.
Comme Hyrule Warriors, avec l'univers Zelda. Voilà. Ils l'ont fait sur Fire Emblem.
Avec Fire Emblem.
Très sympa, mieux que Hyrule Warriors.
C'est ça, tous les défauts pas qu'on pouvait reprocher à Hyrule Warriors au niveau de son gameplay en tout cas.
Voilà.
Tout a été corrigé et tout a été amélioré. On a beaucoup de personnages, on peut switcher entre les personnages, ça c'est vraiment sympa parce que dans Hyrule Warriors, on devait souvent retraverser toute la map pour atteindre des objectifs. Ouais. Là, on peut donner des ordres à ses personnages, je veux dire, toi, tu vas là-bas, après, tu peux switcher et justement contrôler ce personnage à qui tu viens de donner un ordre. Et c'est vraiment sympa. Par contre, c'est vrai qu'au niveau...
C'est au niveau du contenu qui est moins...
Au niveau de l'intérêt, surtout.
Le mode chronique de ce Hyrule Warriors, il est vraiment moins bien que celui de Zelda et son mode aventure.
Bon, allez, on va arrêter de faire durer le suspense, on va parler vraiment du...
D'un autre
gros jeu, la grosse attente de l'année. Bien entendu, je vais parler de Super Mario Odyssey, donc le nouveau Mario en 3D de la Switch, qui arrive déjà dès la première année. C'est quand même énorme.
Bah, un Mario et un Zelda la première année, quoi.
Oui, c'est ça. Surtout, ouais. Et quel Mario ?
C'est ça.
Mario ?
Le plus important, c'est que ces deux jeux, en fait, c'est peut-être les meilleurs de chacune de ces sagas qui sortent la même année.
C'est ça.
Vous ne croyez pas que ce serait possible.
Oui, c'est ça, il a été annoncé à l'E3, par...
Avec une magnifique vidéo, la première chose qu'on voit dans la vidéo, c'est un T-Rex avec une moustache, genre normal. Ouais. Je l'ai plus en tête la vidéo, mais je crois qu'au début on voit le T-Rex de dos ou quelque chose.
En fait, on voit juste le T-Rex, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu?
On se dit, voilà, c'est quoi ce jeu, c'est une nouvelle licence?
Je croyais que c'était Monster Hunter.
C'est vrai.
Le T-Rex, il a un style très réaliste, c'est pas du tout le style qu'on peut...
Alors justement, dans ce jeu, dans Super Mario Odyssey, on a énormément de styles comme ça, différents, de petites surprises, de choix de design vraiment, vraiment surprenants, qui font très plaisir.
C'est ça, le thème du jeu, c'est vraiment l'aventure et la surprise.
Ouais. Donc, pendant tout le jeu, d'ailleurs pour le test, ils nous ont dit, surtout faites attention, il n'y a pas forcément de contraintes sur l'embargo à ne pas dévoiler, mais faites attention à ne pas gâcher la surprise des, ouais, des lecteurs, parce que le jeu il est basé là-dessus, quoi.
C'est vrai que c'est un... Moi je me souviens que avant que le jeu sorte, Nintendo a encore eu cette espèce de manie qu'ils ont maintenant de mettre de plus en plus de trailers et de présentations. Et j'ai toujours peur quand je vois ça, je me dis mais arrêtez de me dire tout ce qu'il y a dans le jeu parce que il va plus rien rester pour me surprendre. Et oh, bah, c'est... j'étais loin du cas. Parce que vraiment il y a tellement de choses. Et c'est vrai que le terme de l'Odyssée, du coup, c'est vraiment bien choisi parce que l'Odyssée d'Homère, là, c'est vraiment... C'est ça, quoi. Ulysse, il va dans des endroits de plus en plus inattendus et tordus, quoi. Il comprend de moins en moins. C'est vraiment ça. Je crois que quand on arrive, même si, bon, c'est pas mon niveau préféré, le niveau où il y a que de la nourriture, là, il y a des légumes partout, etc., là, ça, c'est vraiment... incroyable, quoi. C'est rocambolesque pour un Mario, et déjà Mario, ça a jamais été très très...
Mushroom City avec ses vrais humains bien proportionnés.
Comme dans Sonic Adventure 2.
On y a tous pensé.
On y a tous pensé, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que c'est un jeu qui est, comme souvent dans les Mario, ils ont trouvé une idée de truc à ajouter à la recette Mario, ouais, et cette fois-ci c'est Capi. Capi qui permet de capturer donc un certain nombre de créatures plutôt adverses en général pour pouvoir les incarner et donc plus être Mario, un petit peu comme Kirby, quoi. On devient complètement... C'est autre ça. Chose, ouais. Et les possibilités de gameplay que ça ouvre, c'est
fou.
C'est vraiment des malades, hein. C'est assez incroyable comment ils font allez on va ajouter un truc et ça change tout 5 fois, quoi. C'est vraiment puissant.
Et surtout, on revient à la formule de Super Mario 64 et Super Mario Sunshine de Mario en 3D assez libre, avec des grands mondes ouverts, des mondes plutôt grands où on peut aller chercher des lunes un peu comme on veut, sans suivre un chemin linéaire comme on avait dans Mario Galaxy ou les Mario 2D ou même Mario 3D Land.
Mais même au-delà de Mario 64 et Sunshine,
c'est encore plus.
Ça fait presque penser à Banjo-Kazooie, parce que quand on trouve une lune...
Oui,
on continue de se promener. C'est
pas la fin du niveau.
Et surtout, il y en a énormément.
Il y en a partout.
Il y en a vraiment.
C'est
peut-être au final. Trop. Ça en devient un point négatif à un moment donné, en fait.
Quand il s'agit de toutes les trouver, oui.
Voilà.
Mais quand t'es là et que tu te promènes pour la première fois.
Ah, bah oui, mais c'est.
Moi, je trouve ça assez génial.
T'as des trucs à faire dans tous les coins.
Tout à fait.
À chaque fois que tu vois un truc qui paraît un peu insolite, genre des fleurs en cercle, en gros, faut que tu fasses quelque chose, tu vas avoir une lune. C'est obligé.
Et ça qui est génial aussi, c'est qu'on est récompensé pour toutes nos actions, tout ce qu'on tente, en fait, en général, est récompensé vu qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est une sensation vraiment très agréable quand tu joues à ça.
Aussi, un autre point qu'il y a et qui reprend effectivement là où Mario Sunshine s'était arrêté, c'est que c'est le Mario où on a le plus de mouvements que Mario peut faire. Pour pouvoir aller faire de l'exploration poussée et même parfois limite du sequence breaking, si on a vraiment de la patience, on peut vraiment atteindre un niveau de skill qui est sans précédent dans un Mario, quoi. Ouais. Là, tu sautes, tu jettes Capi, tu plonges dessus, tu rebondis, tu ressautes, tu fais un truc en l'air, etc. Ouais. Il y a tout ça.
Et quand tu finis par maîtriser ce genre de choses, t'es vraiment content.
Ouais, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu de speedrun, parce que ça y est, il commence à
y avoir. Il y a une grosse communauté de speedrun.
Et là, le speedrun en any percent, en une heure, ouais. c'est des artistes, les gars. C'est franchement.
On retrouve finalement tout ce qui avait fait l'intérêt de Mario 64, parce que c'est vrai que.
Il
y avait énormément de speedrun, ce qu'on n'avait pas dans les Mario Galaxy, par exemple. Enfin, à moins.
Bah ouais, il y a des speedruns pour tous les jeux, mais
il y en a
c'est
pour
vrai
tous,
que Mario 64, pour moi, jusqu'à maintenant en tout cas, c'est un des meilleurs jeux qui soit pour le speedrun, c'est pas étonnant, parce qu'il y a des techniques avancées et il y a du glitch qui permet quand même de faire des trucs de dingue. Là, dans Mario Odyssey, il y a moins de glitch, en tout cas on n'en a pas trouvé beaucoup pour l'instant, mais il y a aussi l'aspect technique avancée qui permet de vraiment, vraiment accélérer l'aventure.
Donc vraiment très bonne surprise fin d'année.
Ah ben bien sûr.
Et bien sûr, on va finir par le gros morceau pour moi.
On va pas aller manger. Vous pouvez pas aller manger.
On va vous laisser. Bonne soirée.
Donc pour Marc, pour Cyrus et moi, bien sûr c'est Xenoblade 2 parce qu'on est des gros fans de cette série de RPG. Et c'était vraiment une surprise que le jeu sorte cette année, enfin en 2017, parce que il a été annoncé à l'E3.
Jusqu'à ce que je l'ai entre les mains, j'y croyais pas de toute façon. Il a été annoncé en janvier quand ils ont fait leur...
Oui, à la présentation de la Switch.
C'est ça.
Et finalement, à Noël, il est sorti. Et ben voilà, c'est un gros kiff. J'ai déjà plus de 100 heures de jeu dessus.
Ouais, moi j'ai pris du retard, donc j'en suis qu'à 80. Mais c'est dans la même veine que Xenoblade 1, c'est un très gros JRPG qui a, pour moi, donc, comme tout le reste des Xenoblade, hein, trois énormes forces. La première, c'est qu'il y a des environnements qui sont immenses et imposants et dans lesquels on a vraiment une envie de s'immerger et d'explorer et de vivre une aventure. Il y a en deuxième point le fait que le système de combat il est compliqué mais très très satisfaisant une fois qu'on le méprise.
Pour moi c'est l'aboutissement de la série, il est mieux que ce qui s'est fait précédemment et donc c'est vraiment le...
C'est ça, et le troisième point qui est toujours un bon point dans les Xenoblade, c'est la musique qui est incroyable.
Ah bah pareil pour moi, c'est la meilleure OST que j'ai jamais entendu pour l'instant.
J'attendrai d'avoir fini le jeu pour
voir ça. Ouais, moi je l'ai fini.
De tous les jeux.
Bah pour
des RPG en tout cas.
Joue à Chrono Cross.
C'est le même compositeur, hein, donc
c'est pas faux.
On s'y retrouve. Hein.
Et donc après, bon, malheureusement, il y a des points quand même dans ce jeu qui, pour moi, vont l'empêcher de rentrer dans la postérité comme le précédent. C'est que bon, il y a des clichés de fan service très japonisants qui sont.
Enfin, ce qui n'existait pas ou peu dans les précédents.
Dans le X, il y en avait un peu. Dans le 1, il y en avait pratiquement pas. Mais enfin là c'est un point, moi je suis pas quelqu'un qui va être à dire oh là là c'est trop japonais, je vais pas jouer à Persona parce que j'adore Persona, mais là quand même c'est un point, c'est vraiment beaucoup. C'est
moi ça je suis pas fan de ces japonaiseries. Du coup c'est effectivement un peu dommage qu'il y en ait beaucoup dans Xenoblade. Par contre c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est vraiment on sent, alors d'un côté c'est le point faible, on sent que c'est là juste pour le service. Et du coup ça n'est pas lié, enfin l'histoire et l'environnement du jeu, le contexte du jeu n'est pas du tout dans ce délire là, mais ils ont juste rajouté par dessus quelques éléments de fanservice qui permettent de vendre le jeu au Japon.
D'ailleurs ça se ressent parce que en fait c'est cantonné en gros aux cinématiques et aux animations phases, d'apparition de certaines lames rares quoi. Au-delà de ça, quand on est en gameplay, quand on est en train de faire des quêtes ou des combats...
Voilà, l'histoire du jeu n'est pas du tout dans cette idée-là. Et du coup, moi j'arrive à faire abstraction de ça et à séparer ces éléments-là.
J'arrive aussi, j'en suis à 80 heures.
Et du coup, je kiffe le jeu comme pas possible. Mais
il y a un truc qui m'a marqué par rapport à ça, c'est que de base, les voix japonaises ne sont pas dans le jeu, il faut les télécharger, non ?
Ouais, il faut télécharger les voix japonaises.
Mais la publicité à la télé, les personnages ont les voix japonaises.
Ouais, alors moi,
justement, parce qu'il joue vachement sur ce côté japonais.
Et du coup,
moi, en voyant la pub, ça m'avait choqué. Je voyais les personnages parler en japonais et tout, et ils jouaient sur ce côté japonais. Alors je me disais, mais.
Alors moi,
je trouve... de base, les voix, elles sont même pas en japonais.
Moi je trouve ça bien, du coup, de proposer les voix japonaises, parce que c'était pas le cas dans le premier. C'était pas le cas dans le X. Bon, après, dans le X, c'est des Américains, donc c'est moins gênant. Là, de plus en plus, Nintendo propose les voix japonaises.
C'est déjà le cas avec
Fire Emblem, même Zelda. Par contre, pour le coup, dans Xenoblade 2, je trouve que le jeu est beaucoup mieux avec les voix anglaises.
Ouais, alors on va se faire des ennemis chez les puristes.
Oui, mais c'est pas grave, moi je trouve les voix japonaises insupportables.
Pour moi, il n'y a pas photo. Les voix japonaises, en fait, elles poussent encore plus loin les clichés qui sont déjà un petit peu malaisants dans les graphismes du jeu. Alors que les voix anglaises, pour certaines, pas toutes, hein, mais pour certaines, déjà, elles sont extrêmement bien faites.
Ouais.
Il y a des doubleurs qui sont vraiment excellents. Et puis pour certaines, ça colore vraiment le personnage et justement, ça prend le contre-pied des clichés. Alors l'exemple le plus évident, c'est Nia, qui est une fille chat. Donc clairement, en japonais, elle a une toute petite voix nasillarde insupportable. Hein. mais en anglais, c'est la voix d'une actrice galloise qui a un fort accent du Pays de Galles. Et du coup, en fait, ça lui donne vraiment beaucoup de personnalité et son accent. Enfin, tout est mémorable, en fait, tout ce qu'elle dit.
Ça souligne son caractère qui n'est pas du tout le caractère cliché d'une ficha
de la ficha japonaise. En plus, voilà. C'est ça, parce que l'histoire, c'est ça qui est vraiment paradoxal. L'histoire, comme les autres histoires des Xenoblade, d'ailleurs, part d'une histoire qui est vraiment très cliché, très manichéenne. Il y a le méchant empire et le gentil royaume, etc. On l'a vu 100 000 fois dans des JRPG. Mais là où Takahashi est excellent, c'est que la trame narrative fait que, petit à petit, la nuance s'installe partout, et ça devient de plus en plus gris, et on ne sait plus vraiment quels sont les tenants et les aboutissants.
Ouais. Voilà. Donc, pour une fois, les voix japonaises, non. Vaut mieux jouer en anglais.
C'est ça. Ouais. C'est la vie de tout Nintendo Sphere.
Je sais pas, Dante a pas l'air d'accord, mais bon.
Non, moi j'apprécie. Justement, les voix japonaises, moi je joue au jeu, mais je suis moins investi qu'eux. Je trouve qu'elles collent bien aux personnages, mais justement, ça rajoute une surcouche de japonaiserie que j'aime pas trop.
Ouais, mais il en est pas assez loin dans le jeu pour savoir quels sont vraiment les personnages.
C'est ça, il les connaît pas encore.
C'est ça.
Bon, du coup, on a couvert
un peu toute l'année
en jeu Nintendo.
Un peu et tout quelques... Xenoblade aussi.
Voilà, on est rapidement passé sur Zelda Xenoblade.